Alors, vous avez échappé à une introduction d'une demi-heure rédigée, la tête dans le texte. On a tout lâché, on va un peu improviser. Je vais commencer par une introduction très, très, très formelle à la Google du travail de Christophe Bonneuil. Donc, Christophe Bonneuil est historien des sciences et des techniques. Il a co-dirigé avec Dominique Pestre le tome 3 d'une histoire des sciences et des savoirs. Le siècle des technosciences. Il est un des spécialistes en France de la question de l'Anthropocène, notamment directeur de publication de la collection Anthropocène au Seuil. Il est co-auteur de l'événement Anthropocène avec Fressoz en 2013. Il a publié entre autres sur la question du gène et des semences. Et son dernier ouvrage s'intitule La nature, le nouvel Eldorado de la finance. On voulait juste vous parler un petit peu des raisons pour lesquelles il nous avait semblé important de l'inviter à cette session de travail sur le rapport au vivant et dans quel contexte sa pensée un peu nous a percuté à un moment donné. Du coup, on va déjà se présenter. Bon, moi, je m'appelle Guillaume Maigron, j'habite à Tarnac, sur le plateau. Sur la montagne Limousine, plutôt une activité de construction, de charpente, menuiserie, etc.
Et moi, c'est Daniel. Je suis plutôt basé à Barcelone en ce moment. Je suis là parce qu'avec Guillaume, on réfléchissait à des questions en commun. Et en ce moment, je travaille un peu dans mon coin, en dehors du contexte universitaire, sur une histoire critique de la génétique. Que je vais vous épargner. Donc voilà.
On s'est rencontrés dans le cadre très vite de ce qu'on appelle l'école de la Terre, qui est un projet un peu naissant, dont l'idée générale, c'est un peu de se dire, une idée qu'on avait un peu depuis longtemps, mais dont on n'avait pas forcément les moyens pour y travailler. L'idée étant de se dire, la question politique aujourd'hui, c'est d'emblée une question de monde, c'est-à-dire d'emblée une question de rapport au monde à travers tout un tas d'activités manuelles ou intellectuelles. Et l'idée dans les années à venir, c'est d'en faire un outil aussi pour cette commune du plateau un peu, pour développer justement à travers plein d'activités différentes notre rapport au monde. Donc la situation de laquelle nous sommes partis, par exemple, moi je suis né en 74, donc après la crise, la croissance, tout ça, ça m'a jamais trop concerné du coup. Et on partait de la situation qui est une situation de catastrophe, hein, qu'on ressent depuis longtemps comme telle. Cette situation, on a pour habitude de lui donner le nom d'Anthropocène. Mais justement, pour nous, un peu l'Anthropocène, c'est pas tant ce que ça décrit, la catastrophe, sixième extinction, des espèces, etc. Vous connaissez un peu tout ça. Mais l'Anthropocène, c'est plutôt le nom de ce que ça cache pour nous. C'est-à-dire une dernière manœuvre de la pensée moderne, dans le sens où ce qui est en cause, enfin disons, ce qui provoque cette catastrophe un petit peu généralisée des écosystèmes, c'est justement certainement pas la nature humaine ou l'anthropo, justement, mais un rapport très particulier, qui est le rapport moderne au monde, qui est le résultat d'une pensée qui s'est constitué depuis très longtemps. Il y a tout un débat, évidemment, sur qu'est-ce qui est la genèse de cette pensée, de ce rapport au monde. Ça va de des références au christianisme, la description de la genèse, jusqu'à, selon les théories, la naissance de l'agriculture avec l'accumulation primitive, jusqu'à la naissance des villes avec le rapport abstrait au règne animal et au règne végétal que ça implique. Jusqu'à l'esclavagisme, le XVIe siècle, la guerre, la chasse aux sorcières, les enclosures. Enfin voilà. Il y a mille et une théories en passant par le cogito de Descartes et la naissance un peu de l'épistémologie moderne. Ça me fait penser, voilà, un mot un peu chiant. On avait décidé, j'ai oublié de vous en parler, on veut deux cobayes, deux volontaires. On s'est dit que, vu qu'on va accélérer notre introduction, on pourrait prendre le temps de définir tous les termes qu'on utilise un peu compliqués. Il faudrait deux personnes qui lèvent la main et qui, quand il y a un mot vraiment problématique, lèvent la main et on prend le temps de l'expliquer. Dans le sens où c'est un rapport, moi je veux dire en menuiserie par exemple, il y a tout un tas de termes techniques. Au début, moi par exemple, je l'ai rejeté parce qu'en disant bah oui, c'est une mise à distance des autres, c'est une valorisation des autres, du coup je ne l'emploie pas. Puis finalement, bon, c'est pratique quand on bosse, c'est pratique quand on réfléchit d'utiliser des termes, même de philo ou trucs comme ça. C'est pas une manière de se valoriser justement. Donc, il faut régler ce problème directement. S'il y a deux personnes qui se disent on lève la main dès qu'il y a un mot un peu chiant, il faut deux volontaires. Hein ? Marie-France ? Non ? Deux. Voilà. Donc, je commence par l'épistémologie. Je n'ai pas préparé ce genre de définition, mais on va dire que. Puis on peut s'aider pour faire ces définitions. L'épistémologie, c'est un peu la structure. La structure un peu de la pensée, c'est les présupposés, un petit peu, qui sont pas forcément questionnés, et qui fondent notamment la pensée scientifique, un peu comme ça. Bon. Donc j'en étais à toutes les hypothèses que chacun peut avoir sur la genèse de ce monde moderne, avec tout un tas de possibilités. J'ai l'impression, et j'aime bien l'idée, dans une des conférences de Christophe Bonneuil, lui disait, on en arrive à ce point paradoxal où finalement, c'est les modernes, eux, qui sont omnibulés par une forme de temporalité que d'autres appellent le présentisme. Aïe, c'est ça aussi. Bah, le présentisme, ça vient d'un. Je pense que c'est pas lui qui a inventé la notion, mais récemment, ça a été un peu réactualisé par Jérôme Bachet. Dans le présentisme, la tyrannie du présent, c'est ça Défaire la tyrannie du présent. Et c'est, pour faire vite, ce rapport où la temporalité se contracte jusqu'à définir une société qui, notamment au niveau des flux financiers, mais de manière générale, une temporalité qui se contracte jusqu'à la nanoseconde. Et où le passé n'est présent que comme commémoration, mais jamais véritablement intégré dans le présent. On va dire ça comme ça. Donc ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même intéressant de voir que ce rapport au vivant, qui est dans une temporalité très très courte, c'est finalement lui qui va hypothéquer les siècles à venir. C'est-à-dire que cette genèse, il va falloir se raconter comment est née cette pensée moderne, comment est née la catastrophe. Il va falloir se la raconter pendant des dizaines de générations. On est peut-être parmi les premières générations qui en ont conscience, mais ça va être un peu de notre responsabilité de se raconter après cette histoire. Et voilà, une des choses que je voulais poser, c'était vraiment que maintenant, je pense que ça devient vraiment, à mon sens, assez criminel, et ce, en plus, en bande organisée depuis des siècles, de continuer à penser la politique sans faire vraiment ce constat-là, sans faire cette généalogie, et sans avoir cette profondeur. Cette profondeur étant une réflexion sur les origines, vraiment les fondements, de cette catastrophe. Évidemment qu'on ne va pas s'en sortir, à mon avis, avec des questions techniques. Le problème et la façon de penser qu'il apporte est assez ancien. C'est élaboré jusqu'à nous. Et c'est à nous, à mon avis, dans les générations qui viennent, les deux, trois générations qui viennent, d'essayer de dépasser ça. Et dépasser le ça en question, c'est quand même des centaines d'années de construction, à la fois dans les sensibilités, dans les concepts, dans les idées. J'ai l'impression qu'on vit une forme de colonialisme de la pensée, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'héritages, il y a tout un héritage de la pensée dont je parlais tout à l'heure, qui fait que même le réel lui-même nous paraît désormais un peu inaccessible. Et le réel, tout simplement, de nos vies. Alors j'ai l'impression qu'il y a plusieurs formes de surmoi, hein. Il y a vraiment cette structure de la pensée, mais il y a aussi tout bêtement, tous les surmois familiaux, entrepreneuriales, même chez les révolutionnaires ça marche aussi, qui fait que la réalité, c'est la réalité de tous les jours, on n'arrive même plus à la percevoir telle qu'elle est. Et j'ai l'impression que c'est tout simplement des couches à enlever. C'est pas des... voilà. Pour retrouver une confiance et retrouver la réalité de nos forces, quoi. Moi, j'en suis venu à me dire que justement, à chaque fois, dans cette... parce que le fil, un petit peu, c'est de dire... il s'agit pas... l'enjeu politique, c'est pas forcément... c'est pas tant l'avenir que le réel, d'une certaine manière. J'ai l'impression que, voilà, c'est plus quelque chose à retrouver. Voilà. Et j'ai l'impression que savoir décrire justement nos vies au-delà de ce colonialisme de la pensée, mais vraiment le décrire vraiment, c'était une manière de guérir. Et c'est une manière de retrouver ses propres forces. Je voulais faire la transition avec quelques petits mots qu'allait dire Daniel. Toujours en suivant ce fil qui est en fait ce qui sera, c'est-à-dire une projection politique. C'est toujours à l'origine basé sur une vision de ce qui est. C'est une formule très simple, c'est presque tautologique. Enfin, c'est presque tautologique dans le sens où c'est une. C'est presque la palissade, enfin, c'est quelque chose. Voilà, je ne saurais pas le dire autrement d'ailleurs. Ce lien entre la perception qu'on a du réel et les projections qu'on peut faire. Et du coup, moi, par exemple, il y a un bouquin que je vous recommande, j'ai pas le temps de développer là, mais qui m'a beaucoup marqué, c'est un bouquin de Marshall Salins, qui s'appelle « La nature humaine, une illusion occidentale ». Et là, il fait ce travail-là. Il fait le rapport entre la vision que l'homme a de lui-même, à travers l'anthropologie, et la manière que ça a de légitimer les politiques, les manœuvres politiques en général, la vision politique. Je voulais juste vous citer juste une petite phrase. Si la domination souveraine ou tyrannique et l'équilibre républicain se succèdent alternativement depuis les Grecs en Occident, c'est bien parce qu'ils font tous les deux partie du même paradigme. Ouais. Je le fais à la fin. L'un comme l'autre font partie du paradigme naturaliste qui oppose la nature à la culture, laissant à la culture le rôle de préserver l'homme de la barbarie et de la sauvagerie inhérente à son état de nature. Pour finir, après je ferai le terme. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça condense aussi l'essentiel de ce qu'on voulait dire. C'est que j'ai l'impression qu'on a une culture, un rapport au vivant, un rapport au politique, qui s'est toujours un peu construit, c'est ce que je pense, essaye de dire Marshall Salins, qui s'est toujours un peu construit sur la peur de nous-mêmes. C'est-à-dire que le politique, il est toujours là pour se préserver la société, de ces individus, de ces forces inhérentes qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et voilà. Donc le mot paradigme, on va dire que c'est... J'aurais dû le préparer, mais c'est un schéma de pensée qu'on retrouve un peu à plusieurs étages de la pensée. C'est vraiment une idée de base de la pensée, qu'on peut retrouver dans différents domaines. Donc, voilà.
Alors, préserver l'homme de sa sauvagerie inhérente. Moi, ça m'a fait penser à donc, la peur de nous-mêmes, à la peur du corps, en fait, et de tout ce qui peut se dérégler, se casser, mourir. Tout ce qui peut être influencé par l'extérieur, par des événements extérieurs imprédictibles. En fait, c'est le vivant, quoi. Donc cette peur du vivant, elle a nourri aussi toute l'histoire de la génétique. Moi, j'ai dit que j'allais vous épargner la génétique, mais je vais quand même en parler un peu. parce que c'est mon parcours et c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Guillaume. Alors la génétique, comme les religions, comme le capitalisme, elle a toujours instrumentalisé et mobilisé la peur du corps, la peur de la maladie, la peur de la mort et cette peur de l'imprédictible. La peur de la perte de contrôle aussi. Donc elle a participé de cette espèce de rapport au monde qui établit une séparation et une relation conflictuelle entre l'humain et son propre corps, entre l'humain et le reste du vivant et le reste du monde, qu'on a donc désigné par la nature, avec un grand N. Alors la génétique, c'est la science de l'hérédité, ça veut dire c'est la science qui étudie les mécanismes de transmission des caractères, des organismes, de génération en génération. Et c'est une science assez récente, en fait, hein, elle apparaît à la fin du 19e siècle, en lien avec l'émergence d'une vision évolutionniste, transformiste du vivant pendant ce siècle-là. Donc ça, c'est une vision du monde vivant et des espèces comme un processus historique de changement et d'évolution. Lamarck, Darwin, tout ça, donc ce 19e siècle avec des bouleversements en biologie. Et donc la génétique, elle se construit en même temps. Moi, je dirais, mais c'est peut-être un peu une controverse, mais elle trouve sa source dans le projet eugéniste, qui naît au même moment. Le projet eugéniste, c'est, pour dire rapidement, c'est un projet politique et scientifique d'amélioration de l'espèce humaine. Ça vient d'une élite qui s'inquiète de la dégénérescence de l'humain, mais en fait c'est un projet d'élimination de ce que les élites considèrent comme les humains inférieurs. Alors la génétique à ce moment-là, quand elle naît, pour conceptualiser la transmission des caractères et de leurs variations, elle importe la notion d'hérédité directement du monde économico-juridique. À ce moment-là, jusqu'à ce moment-là, désignait seulement l'héritage de patrimoine, de richesse, de titres, une accumulation graduelle comme ça de biens. Donc c'est déjà une notion qui va suivre la génétique et l'influencer beaucoup. Et une autre vision importante, rapidement adoptée par la génétique, c'est celle qui veut que le niveau qui importe pour comprendre les êtres vivants, donc on peut appeler ça le niveau ontologique, dans le sens où le niveau où on... l'ontologie, c'est la perception de ce qui est vrai. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'utilise, c'est-à-dire... qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qu'on pense comme le réel ou la vérité. Donc la génétique, elle adopte une vision de ce qui dit que ce qui est réel, ce qui détient la réalité d'un organisme, c'est le niveau moléculaire. Donc c'est une forme de réductionnisme. Certains appellent ça aussi une vision particulière, c'est-à-dire que la substance qui porte l'hérédité, donc ce qui va être transmis de génération en génération, elle est particulière, c'est des particules élémentaires, minuscules, moléculaires, indépendantes. Alors ça a eu beaucoup de versions différentes, hein, ces particules, maintenant bien sûr c'est les gènes. Et avec cette idée de gènes et de transmission d'ADN de génération en génération, c'est une réintroduction d'une dose d'essentialisme dans la biologie. Après quand même des bouleversements du 19e siècle au niveau de ces bouleversements évolutionnistes dont j'ai parlé. Et cette vision particulière qui va s'installer à partir du début de la génétique tout au long du 20e siècle, elle est en ligne directe avec l'idéologie mécaniste de l'époque qui veut que pour... Alors l'idéologie mécaniste, c'est à la fois penser que les organismes et les êtres vivants sont comme des machines, mais en fait c'est devenu qu'ils sont des machines. C'est une métaphore qui s'est transformée en ontologie, en perception du réel. Et c'est aussi l'idée que pour comprendre un tout, il suffit de le découper en parties. Pardon, j'arrête pas de taper le micro. Et de découper en parties et de les étudier séparément. Voilà, donc un organisme, c'est quelque chose qui est fait de pièces détachées, indépendantes, qui peuvent être remplacées, réparées, améliorées. Donc aussi la vision particulière donc portée par la génétique, c'est une vision qui s'accorde très bien avec le développement du capitalisme industriel de l'époque et de un changement d'organisation sociale qui veut que l'individu devient l'entité primaire et indépendante de la société. Donc il faut commencer à penser l'individu comme une espèce d'atome social autonome. Et c'est en fait plutôt nécessaire à cette époque-là, parce que d'une part, ça encourage les personnes à se déplacer de lieu en lieu, de fonction en fonction, et ça établit aussi une compétition permanente entre ces atomes, entre ces individus, au niveau de la production ou de la consommation. Ça établit ce rapport entre les humains, mais aussi entre tout le vivant. Et donc à cette époque-là, se crée tout un tas de perceptions comme ça, de dichotomiques, de termes opposés, l'inné et l'acquis, pour utiliser des termes en génétique, le génotype et le phénotype, c'est-à-dire l'ADN et l'organisme. Le gène opposé à l'environnement, l'intérieur, l'extérieur, et puis des dichotomies comme nature-culture, immortel, temporel, voilà, qui structurent notre manière de percevoir le monde, mais qui sont aussi nécessaires à la justification scientifique de l'eugénisme, par exemple, pour ses méthodologies et son imaginaire. Alors, grand saut en avant dans nos discussions avec Guillaume. On a beaucoup parlé du fait que récemment, donc disons ces 20 dernières années, des concepts centraux de la biologie et de la génétique ont commencé à un peu s'écrouler. L'idée d'espèce, l'idée d'individu. Les personnes qui étaient là hier, Pascal nous parlait du lichen et de comment ces idées d'individus sont un peu battues en brèche. Le concept de gène qui est devenu totalement flou. La centralité de l'ADN comme molécule explicative de tout, qui est un peu contestée. Donc, par exemple avec l'épigénétique. Comment ? Ah oui. L'épigénétique, c'est en fait une notion qui a beaucoup évolué, qui a démarré à la moitié du XXe siècle, et puis maintenant, là, c'est devenu un domaine très très à la mode, et c'est un peu l'étude de la modification de caractère et de leur transmission possible, mais qui ne serait pas due à des changements d'ADN, qui serait due à des changements chimiques de ce qui se passe dans la cellule, de l'ADN lui-même ou d'autres choses, mais qui ne sont pas dus à des changements de la molécule elle-même. Donc pour certains, c'est un peu une réintroduction de l'environnement dans les idées d'hérédité. C'est une interprétation de l'épigénétique. Bon, un autre concept central remis en cause en ce moment, c'est cette idée d'individu humain, avec par exemple cette idée du microbiome. On ne serait qu'un individu avec des cellules humaines, mais Ça fait longtemps qu'on sait que notre organisme, comme tous les autres organismes, contient énormément de bactéries qui ne sont pas des cellules humaines. Et bon, c'est devenu un sujet très, aussi très à la mode d'essayer de comprendre l'impact de toute cette faune qu'on a à l'intérieur de notre corps. Donc, est-ce qu'on est que de l'humain ou est-ce qu'on est un organisme avec plein d'autres organismes à l'intérieur ? Et donc, dans nos discussions avec Guillaume, on évoquait un peu une réémergence d'une biologie des systèmes. C'est-à-dire qu'essayer de penser le vivant plus de manière réductionniste, tout centré sur l'ADN, mais comme des systèmes entiers, et qui nous semblait assez attractive, finalement, d'un point de vue politique, pour la vision du monde qu'elle propose. Puisque c'est une biologie qui insiste sur les interactions, les réseaux, les relations, et ce genre de choses. Et donc, quelque part, les entités fondamentales changent. On n'est plus dans une ontologie, donc une perception du réel qui est basée sur des objets, des entités séparées, comme cette vision particulière, par exemple, mais on passe à une ontologie de la relation, où tout ce qui importe, finalement, c'est les relations entre les choses. Mais d'un autre côté, dans nos discussions, on trouvait quand même tous les deux que ce tournant empruntait beaucoup à l'imaginaire et au vocabulaire du néolibéralisme, si on veut, et de la cybernétique, ce qui était pour nous très problématique, dans le sens où on pense à cette version de la cybernétique comme une science, c'est une science qui est née aussi à la moitié du XXe siècle, une science du contrôle qui est toujours basée sur une métaphore très mécaniste, qui est obsédée par la comparaison entre les organismes et l'ordinateur. Alors Descartes, c'était les organismes et les horloges, et les automates, ouais, et les cybernéticiens, c'est le cerveau et l'ordinateur. Et donc, qui est un imaginaire qui a envahi en fait, la science et au-delà, qui insiste sur ces idées de réseau, de flux, de relations, et qui est devenu un peu un socle idéologique du néolibéralisme. Avec Guillaume, on avait préparé un petit texte et on a fait un atelier sur cette question-là, sur... On aime bien ces idées de se détacher un peu de l'ontologie de l'objet, de penser tout comme des entités séparées. Et on aime bien penser à la relation, mais est-ce qu'on peut y penser en échappant à l'imaginaire de la cybernétique et du contrôle et de l'époque, en fait, d'une certaine manière.
Voilà, on n'a pas réussi à faire court finalement. Mais voilà, du coup, à ce moment-là, quand on pense à ça, on se dit, cette question-là, il y a vraiment des éléments fondateurs de la pensée occidentale qui commencent à s'effondrer ou à se transformer, que ce soit en anthropologie ou que ce soit en biologie. Et on se dit, ben voilà, ça c'est pas arrivé finalement depuis des siècles, d'une certaine manière. Et il y a un enjeu politique majeur à repenser ça et à trouver un débouché, trouver une forme politique à ça. Comme une forme politique a pu être trouvée pendant la Révolution française pour la pensée des Lumières. Et puis on tombe sur les derniers articles de Christophe Bonneuil. Et là on prend une claque, parce qu'à la fois on était conscient de l'influence de la cybernétique, mais on n'avait pas conscience de à quel point la pensée du capitalisme s'est déjà en grande partie restructurée grâce à cette pensée. Et on passe finalement d'une ontologie qui est relationnelle à une ontologie que lui il appelle connectiviste.